Pour moi, la famille, c'est l'engagement.
C'est un chaos plein d'amour.
C'est complexe.
Pour moi, la famille, j'avais juste un mot à dire, c'est important.
Nous sommes heureux, fiers et nostalgiques de vous retrouver pour le dernier épisode de cette saison de Pour moi la famille. Un balado où on a le plaisir de rencontrer 34 familles et futures familles de la diversité sexuelle et de genre. Pour la dernière fois, c'est moi, June.
Et moi, Mona. Moi aussi, June, je suis toute triste et fière en même temps. C'est notre dernier épisode et c'était toute une aventure d'entrevuer toutes ces familles-là. Mm-hmm. Donc, j'espère peut-être un moment de continuer à faire ça, peut-être même une saison 2.
Si jamais un diffuseur nous entend, n'hésitez pas à nous contacter. Pour le dernier épisode, on a décidé de faire une table ronde où est-ce qu'on va se remémorer les 25 dernières années de la coalition avec deux personnes qui étaient là au départ, ainsi que rêver un peu des 25 prochaines années. Alors, pourquoi finir cette saison avec une table ronde sur le sujet des 25 dernières années de la coalition puis qu'est-ce qu'on souhaite pour les 25 prochaines?
Pour célébrer, en fait, célébrer nos familles, célébrer le chemin parcouru, le chemin que nous avons encore à parcourir et toutes les joies, les réflexions et puis les victoires qui nous attendent.
Ben oui, puis c'est tellement important puis motivant de se remémorer le passé pour mieux planifier le futur. C'est vraiment une conversation qui était stimulante et animée justement à cause de ça.
Mm-hmm.
Alors, qui est-ce qui participe à cette belle table ronde-là?
Le premier, c'est Gary. Gary s'est joint à la coalition autour de 2006. Il est le papa, avec son conjoint, de deux enfants adoptés. Il a été membre du conseil d'administration de la coalition des familles LGBT+, pendant une douzaine d'années et président pendant plusieurs de celles-ci.
La deuxième participante, c'est Mona. Mona et sa femme Nicole, c'est les fondatrices de la coalition des familles LGBT+, originellement appelée l'Association des mères lesbiennes. Je pense que vous la connaissez assez bien parce que c'est une des co-animatrices de ce podcast.
La troisième personne, c'est Bianca. Bianca est actuellement co-présidente de la coalition. Elle est le parent de deux enfants adoptés et vit en famille recomposée. Vous l'avez rencontrée dans l'épisode 9 de ce balado.
Le dernier et non le moindre, c'est Philippe. Philippe, qui est également co-président de la coalition, puis il est aussi en processus d'adoption en banque mixte à Sherbrooke avec son partenaire. La table ronde va se dérouler en trois temps. Dans un premier temps, une discussion avec Gary et Mona, deux personnes qui étaient là au tout début de la coalition LGBT. On parle de leur motivation initiale à participer aux activités et à militer activement pour les droits des familles LGBT+.
Ensuite, on rencontre Bianca et Philippe, les actuels coprésidents de la coalition des familles LGBT+, concernant les raisons qui les poussent à s'impliquer dans les initiatives de la coalition et à défendre activement les droits des familles LGBTQ+. Ils partageront également leurs souhaits et leurs ambitions pour les années à venir.
Et pour finir, un échange enrichissant en quatuor sur les perspectives pour la coalition et les évolutions envisageables pour les familles LGBTQ+, au cours des 25 prochaines années. On s'est rencontrés en janvier 2023 au bureau de la coalition dans Hochelaga pour jaser avec ces quatre personnes merveilleuses de comment c'était les 25 dernières années de la coalition et de comment ça pourrait être les 25 prochaines. J'avais juste quatre micros, puis on était cinq, Gary, Mona, Bianca, Philippe et moi. Fait que Mona et Philippe se partagent un micro. Alors peut-être que des fois vous allez entendre qu'ils se partagent le son. C'est vraiment une magnifique rencontre, puis j'espère que vous allez autant l'apprécier que moi. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de faire une table ronde avec quatre merveilleux invités. Et cette table ronde va être sur se remémorer les 25 dernières années de la coalition pour mieux se projeter dans les 25 prochaines. Donc on a le plaisir de rencontrer deux personnes qui étaient là au début de la coalition. Mm-hmm. Donc Mona et Gary. Est-ce que vous voulez commencer par vous présenter, vos prénoms, vos pronoms, puis aussi qu'est-ce que vous faites hors d'être parent parce qu'on risque de beaucoup parler de votre parentalité aujourd'hui.
Vas-y, Gary.
Donc, je m'appelle Gary, pronom il et lui. Dans la vie, en dehors d'être parent, je travaille pour Hydro-Québec en affaires publiques et je suis accessoirement et bon, surtout même l'ambassadeur du groupe d'affinité LGBTQ+ de l'entreprise.
Nice. Mm-hmm. Bon,
donc, je m'appelle Mona, pronom elle. À part d'être une parent, est-ce qu'il y en a à part, je suis directrice de la Coalition des familles LGBT+.
Puis on a aussi le plaisir d'avoir deux personnes qui étaient le plus dans les années récentes, modernes de la Coalition. On a Bianca. Est-ce que tu peux te présenter? Même question.
Alors, Bianca, pronom elle. Je suis travailleuse sociale de formation, mais c'est comme une deuxième carrière. Mais en ce moment, oui, effectivement, je travaille plus dans une approche de défense de droits, mais aussi de soutien aux familles, de parents d'enfants différents, dont leur exception les rend exceptionnels.
Et toi, Philippe?
Salut, moi c'est Philippe, donc pronom il, lui. Actuellement, je travaille en humanitaire à la Croix-Rouge canadienne, donc en gestion des urgences, mais je suis en train de... Il y a comme une tornade qui se passe dans ma vie depuis quelques années maintenant. Mais j'ai entamé un doctorat en études autochtones et je suis aussi chargé de cours à l'université en sciences politiques en contexte autochtone. Donc, j'ai tout plein de choses et pas encore parent. Je pense que je suis la seule personne, en tout cas invitée à la table qui va pouvoir parler d'une autre approche. Donc, futur parent par contre, on aura la chance d'en reparler.
Sans aucun doute. Merci beaucoup pour vos présentations. Donc, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va faire un petit groupe en premier avec Gary et Mona et ensuite de ça, un groupe plus élargi avec Philippe et Bianca? Mais avant de ça, j'aimerais ça qu'on se remémore un peu. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que vous avez eu accès à la Coalition puis pourquoi?
La première fois que j'ai eu accès à la Coalition, en fait, elle ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Je venais d'avoir le placement d'un petit bébé et je suis tombé sur un groupe qui s'appelait Papa Daddy à l'époque. C'était un groupe de pères, de pères gays. Avec leurs enfants et on était rapidement en communication avec l'association des mères lesbiennes, donc avec Mona. J'ai le plaisir de dire que pendant des années, j'ai eu une carte de membre de l'association des mères lesbiennes avant certaines évolutions dans notre groupe.
T'es une lesbienne honoraire.
Oui, et je me considère encore comme ça.
Toi, Mona, est-ce que tu te souviens?
Quand j'ai rencontré la
Coalition. Quand tu as rencontré la Coalition.
je l'ai rencontré dans mon imagination.
Ah, voilà.
Donc, c'était pendant que j'étais enceinte avec notre premier enfant. Et c'est ça. L'idée était créée à la fin de ma grossesse de fonder un organisme, l'Association des mères lesbiennes.
Et toi, Bianca?
Effectivement, moi, c'est un parcours de vie, en fait. J'étais pas encore parent. J'avais entendu parler justement de l'Association des mères lesbiennes, puis de Mona, de son action. J'étais probablement post-coming out, puis j'ai toujours su que je voulais avoir des enfants, fait que ça m'intriguait vraiment de savoir qu'il y avait un groupe militant là, pour nos droits à la parentalité, puis à la reconnaissance positive finalement de nos démarches parentales. C'est vraiment beaucoup plus tard que je suis devenue membre, justement, dans le cadre là, de l'adoption de notre premier enfant. Et par la suite, 4 ans plus tard, notre deuxième. Alors, oui, moi, je ne mets pas de date. Hein. Moi, j'ai l'âge de tous les possibles.
Et toi, Philippe?
De mon côté, ça fait peut-être 5-6 ans. En fait, avec mon chum, je pense la première date, on s'est dit qu'on voulait des enfants. en fait, c'était pour voir, on parlait de tout et de rien, on s'entend, mais sans pression. Mais en fait, après peut-être un an ou deux, on s'est dit, bon, on va se renseigner pour voir qu'est-ce qui est possible. On a généralement très peu d'informations, surtout du côté LGBT. Les bébés se font parfois un peu moins facilement. Donc, on s'est renseigné, on est devenu membre, on a fait des ateliers et maintenant, ben, je m'implique au sein du conseil d'administration.
Alors, je me retourne vers vous, Gary puis Mona. On va jaser avec vous de comment c'était les 25 dernières années de la Coalition. Première question, qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé à vous impliquer avec la coalition des familles LGBT?
Je me souviens à l'époque, en fait, quand j'ai rencontré ce groupe-là, on se sentait un peu seul. On n'avait pas vraiment eu de modèle, ou même pas du tout. On n'était pas réseauté avec d'autres familles. Et tout d'un coup, je tombe sur un groupe, il y a plein de familles avec des parents de même sexe. Ça donnait vraiment envie de créer une communauté. Je pense que c'est pour ça que j'ai décidé de m'impliquer de plus en plus. Et peut-être la deuxième raison, c'est qu'on n'avait pas vraiment de formation ou d'information pour devenir parent. Et je voyais qu'à l'Association des mères lesbiennes, ça se faisait déjà. Mm-hmm. Je voulais un peu faire la même chose pour des hommes et me concentrer plus sur les questions d'adoption.
C'est ça. Et puis, je pense qu'ensemble, on a fait comme les premiers ateliers pour les futurs parents, comme groupe hommes et femmes. C'était autour de quoi, 2010?
Peut-être même avant ça.
Oui.
Mais bon, c'était embryonnaire comparé à ce que c'est maintenant. C'est un grand événement chaque année, mais ça a commencé petit.
Mm-hmm. Toi, Mona, au départ, tu as dit que la coalition, tu l'as imaginée dans ta tête, mais je pense qu'au départ, tu ne comptais pas être la directrice de cette...
Non. Mais j'avais un autre emploi à ce moment-là. Et puis, quand tu parles de la manque de communauté dans notre temps, je dis en grand guillemets, mais dans notre temps, il y avait... absolument aucune communauté du tout. Puis, on s'est dit que si jamais on réussit à avoir un enfant, on va fonder un groupe. Donc, c'était au début l'Association des mères lesbiennes parce qu'on ne connaissait pas des hommes gays qui étaient parents. Mm-hmm. Et puis, quand on s'est rencontrés, c'était vraiment le groupe Papa Daddy existait pour quelques mois, mais toi et moi, ensemble, on a aidé à fusionner ces deux groupes-là. Mm-hmm.
Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de laisser aller ton day job puis de vraiment te lancer dans la coalition?
Oh my God! Mais c'était pas du tout intentionnel parce que j'avais tout un autre emploi en recherche et à l'Hôpital Général de Montréal. Et puis, c'est ça. Mais le groupe a été fondé en 98, mais on est devenu très rapidement un groupe d'action politique. Et puis, c'était vraiment le timing autour de 2000-2001 qu'on a commencé à lutter pour les droits pour les familles homoparentales. Et puis, c'est devenu comme ça, a occupé beaucoup de temps. Mm-hmm. Et de plus, j'avais deux très jeunes enfants, bébés en fait. Donc tout ça, à un moment, j'ai pensé peut-être je vais comme changer pour le moment ma carrière dans la direction de ce groupe-là. Même si c'était au début complètement bénévole, on a fait ça comme ça pour vraiment comme travailler pour avancer les droits pour les familles homoparentales.
Mm-hmm. Puis, on entend justement qu'à la base, c'était l'Association des mères lesbiennes et que Gary, tranquillement, arrive au travail, c'est devenu la coalition des familles homoparentales. Mm-hmm. Donc, pourquoi, en fait? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que... Mm-hmm.
Ben, je pense qu'on a voulu lancer un groupe mixte. Oui. Mixte dans tous les termes. Dans tous les sens du terme. Mm-hmm. Un groupe qui était accueillant pour tous les parents. C'est sûr que certaines lettres se sont ajustées au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, mais déjà dans la tête, on avait l'idée d'ouvrir les portes grandes pour tout le monde.
Oui, c'est ça.
Mais le premier pas, c'était effectivement de passer de l'Association des mères lesbiennes à un groupe mixte hommes-femmes.
Mais c'était drôle parce que moi, au début de l'Association des mères lesbiennes, j'avais toujours ça en tête, de faire un groupe mixte. Je voyais des exemples à New York, à Boston, dans d'autres villes. Mais il n'y avait pas des pères gays au début, vraiment juste les pères gays qui avaient fondé leur famille comme dans une couple hétérosexuelle. Mais quand est arrivé, on était déjà autour de 400 familles lesbo-parentales et puis il y avait 7-8 familles homopaternelles. Donc c'était déséquilibré. Mm-hmm. Donc ça, c'était important pour comme, en fait, j'ai aidé à former ce groupe Papa Daddy pour que il y aura comme une place pour les pères gays sans comme une énorme quantité de mères lesbiennes.
Et il faut dire qu'on était très proche de l'année 2002. C'était l'année fatidique. Et puis Mona est très modeste, mais son rôle par rapport à ce qui s'est passé en 2002 est énorme. Mm-hmm. Et le fait qu'elle a laissé sa job et qu'elle s'est lancée là-dedans à 150%, mais c'est sûr que ça a changé la donne. Puis ça a changé la donne beaucoup pour les pères. Parce que nous, c'était vraiment possible, surtout à partir de 2002, sans petit tour de passe-passe.
Comme honnêtement, je connaissais aucun père gay comme avant 2002. Et puis c'était tranquillement après, comme 2004, 2005, 2006. Je pense qu'on s'est rencontrés autour de 2006.
Oui, je dirais en 2006, puisque Raphaël était déjà avec nous, mais depuis peu.
Oui, il était bébé encore. Moi, je me souviens, puis là, il est comme 6 pieds, grand.
Puis bébé. Oui.
Et puis, quand le groupe est devenu un groupe mixte, c'était notre premier président de notre CA. Et puis ça, après ça, pendant 10 ans, 12 ans?
Quelques années.
Pendant des années, oui.
Vous étiez quand même une équipe à cette époque-là. On peut ressentir qu'il y a une camaraderie entre vous deux.
Mais oui.
La chose que vous avez faite dans les premières fois, c'était la journée intensive pour les futurs parents. Est-ce que vous voulez m'en parler un peu des beaux souvenirs de ces journées intensives-là?
Ah ben, je pense qu'il y a des beaux souvenirs à tous les ans depuis ce moment-là.
Ah oui.
On vient d'en vivre la première dans une même salle avec les futurs parents depuis la pandémie. À l'époque, on était beaucoup moins nombreux. On faisait ça surtout à l'UQAM. Je me souviens d'avoir fait ça dans mon sous-sol une fois lorsqu'il y avait une grève à l'UQAM. On faisait ça des soirées de temps. On avait 5 ou 6 soirées de suite. On n'avait pas une journée intensive. On faisait ça d'une autre manière. Mais il fut un jour qu'effectivement, il y avait une grève puis on voulait continuer à faire ça. Fait que j'ai réuni un groupe de 12-15 personnes dans mon sous-sol. J'en faisais même une soirée sur comment mettre des couches sur des bébés, des choses super pratiques comme ça. Puis j'arrivais avec plein de toutous de mes enfants avec des couches. Puis on faisait ça en gang, là. C'était drôle. C'était vraiment drôle.
C'est dommage qu'on n'a pas pris des photos.
C'est peut-être mieux.
Puis je me demandais, quand les gens arrivaient à la coalition, est-ce que les gens étaient prêts à avoir des enfants? Puis est-ce qu'ils allaient vous voir parce qu'ils voulaient savoir comment ça se passe?
Mais oui, c'est toujours une grande portion de notre membership. Comme chaque année, je dirais autour de 30% de nos nouveaux membres sont des futurs parents. Mm-hmm. C'est des gens qui viennent vers nous parce que c'est, même si l'accès est beaucoup mieux que c'était avant, c'est quand même, c'est compliqué que ce soit l'adoption ou la procréation assistée. Les gens ont beaucoup de questions. Donc ça, c'est comme un grand attrait de la coalition.
Je pense que la soif de connaître la recette, ça fait partie. Mm-hmm. Mais c'est aussi la soif de voir des gens qui vivent cette réalité-là.
Oui.
Mm-hmm. Et c'est ça qui fait en sorte que les gens sortent avec les yeux grands et probablement dorment pas très, très bien la nuit d'après là, parce qu'ils sont en train de moudiner tout ça dans leur tête.
Et puis, on a même des enfants aussi qui viennent parler. Donc, ça aussi, ça touche les gens.
Pour nous, c'est très spécial parce qu'on rentre un peu dans les rêves de chacun et chacune, hein, cette journée-là. Mmh. On partage un peu la vision pour leur vie. Ça, c'est pas quelque chose qu'on fait à tous les jours.
Puis tout en gardant anonyme l'identité des gens, est-ce que vous avez des histoires qui ressortent de ces rencontres-là qui vous ont touché?
Mais il y a tellement... On a vu comme des personnes qui se sont rencontrées à nos ateliers, qui ont décidé de fonder une famille ensemble.
Okay.
Donc, la coparentalité, choses comme ça.
Pour moi, il y a beaucoup de ces gens-là qui sont devenus des amis, ont eu des enfants. Mm-hmm. Mes enfants connaissent leurs enfants. Raphaël garde beaucoup des enfants de personnes que j'ai rencontrées au cours de ces formations-là. Donc, ça crée une communauté. Et une expérience très touchante là, dont je me souviens, c'était deux personnes qui sont venues à un atelier, qui sont reparties, qui nous ont contactés, Mona et moi, après. Ils avaient des difficultés avec le processus d'adoption. On leur a donné des conseils, ils sont repartis, on n'en a plus entendu parler. Et 2-3 ans plus tard, ils se pointent dans un événement avec un enfant.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Et ils viennent nous voir pour dire merci. Merci pour la formation, merci pour d'être à côté de nous pendant tout ce processus-là qui n'était pas facile, mais voici ce que ça donne. Mm. Ça, là, ça touche vraiment les cordes émotionnelles.
Maintenant, je vais me retourner vers Philippe et Bianca. Donc, première question, la même pour vous. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu vous impliquer davantage à la coalition des familles LGBT?
Bien, en fait, moi, j'ai pris conscience de ma différence très jeune. Hein. Tu sais, je suis issue d'un couple mixte. Je suis une femme métisse, père jamaïcain, une mère québécoise, francophone. Et puis, fait que j'ai été élevée, moi, évidemment... avec cette prise de conscience-là que je portais sur moi, de par ma couleur de peau, mais aussi en moi, une mixité, un métissage. Puis aussi, moi, c'est vraiment le côté politique. Tu sais, j'écoutais Mona et Gary, puis moi, j'ai jamais participé à aucun atelier. Mm-hmm. Et puis ça, je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a des parents qui disent « Ah, mais j'ai pas vraiment besoin d'atelier ou j'ai pas vraiment besoin de la coalition. » Je vous dirais « Oui, mais il faut être reconnaissant pour ce que la coalition a fait pour nous, pour qu'on soit même aujourd'hui capable d'envisager à fonder une famille, c'est grâce à la coalition. Moi, c'est vraiment l'aspect politique, la défense de droits, puis moi, c'est cet aspect-là de la coalition qui m'a attiré. Mm-hmm. Plus l'action politique.
Ouais. Et toi, Philippe?
De mon côté, ça fait peut-être même pas 10 ans encore que j'ai fait mon coming out. Donc, ça a été un long processus à la base de sortir de mon homophobie intériorisée. Au départ, quand on est devenu membre, c'était juste pour s'informer parce que ben, nous, on voulait bâtir une famille, point. Mais on connaissait pas personne, dans le fond, de la communauté qui avait eu des enfants. Puis on connaissait personne de la communauté, quasiment, point. Pourquoi après ça, j'ai décidé de m'impliquer? D'abord aussi pour moi, pour essayer de mieux comprendre qui j'étais. Donc, c'est un peu ça. Puis évidemment, le côté politique s'est développé par la suite. Mais j'ai participé déjà quand même à quelques ateliers, formations, dont certaines de Gary. Et depuis, j'ai décidé de m'engager depuis 2 ans dans la gouvernance pour concrétiser un peu plus le projet. Parce que de mon côté, c'est avec mon conjoint, c'est la banque mixte, l'adoption. Bon, on déménage de région, donc on croyait aussi à tort qu'il fallait tout recommencer, etc. Donc là, de m'impliquer plus, je suis un peu plus conscient des droits, des procédures, etc. Puis en même temps, ben, ça rend plus concret le projet, parce que quand c'est une gestation, on peut le voir. Quand c'en est pas une, puis que ça dure des années, c'est démotivant aussi parfois. Fait que c'est encourageant de s'impliquer aussi personnellement.
Mm-hmm. Vous avez eu la chance d'écouter Mona et Gary parler pendant les dernières minutes. Je me demandais, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris? Qu'est-ce qui a été dit sur à la fois la coalition, mais aussi le droit des familles LGBTQ+ au Québec?
Surpris? Non, honnêtement. Je pense que... en fait, c'est venu plutôt confirmer ce que je sentais déjà. Mona et Gary, c'est des personnes exceptionnelles. Ils ont un don de soi immense, et puis c'est des pionniers, pionnières au Québec, je pense, de la solidarité sociale. Je pense que c'est au-delà, tu sais, pour la communauté LGBT. C'est pour moi, c'est mes mentors, mm-hmm. tu sais, je veux dire, je les suis depuis que j'ai 14 ans, 15 ans. Je fais partie des premières générations de femmes lesbiennes mm-hmm. qui ont connu l'avant reconnaissance des conjoints et l'après. Mm-hmm. Et puis, je me rappelle, moi, quand Statistique Canada venait faire le recensement puis qu'il fallait mentir, où on pouvait même pas dire qu'on était conjoints, ça n'existait même pas, cette possibilité-là. Puis grâce à Mona et Gary et toutes les personnes qui se sont impliquées, maintenant, on est capable de cocher. On est représenté, on existe. On n'est plus invisibilisé. Alors... moi, c'est ça. Quand j'écoute Mona et Gary, c'est ce que j'entends.
Pour vous, qu'est-ce que c'est les enjeux maintenant, mais aussi les enjeux à apparaître, en fait, dans les 25 prochaines années pour les familles de la communauté LGBTQ+?
Mm-hmm. Au fil des années, j'en avais parlé à Mona. Je pense que, puis la coalition le fait depuis plusieurs années, c'est toute l'approche intersectionnelle. Dans mon cheminement de parents, la première adoption, c'est une adoption internationale. Dans un pays des Caraïbes, un enfant noir. Alors, il y a tout l'aspect, le colorisme. Quand on est plus foncé que nos parents, quand on est plus foncé que la majorité des personnes dans notre famille, ça apporte une certaine prise de conscience ou des fois, tu sais, au niveau de l'identification et tout. À ce niveau-là, je pense que les parents qui vivent ces situations-là ont besoin de soutien. Il y a aussi mon deuxième enfant qui est autiste, qui est neurodivergent, qui a des conditions associées. Puis c'est le cas de plusieurs parents d'enfants qui adoptent. Souvent, les enfants qu'on adopte, c'est des enfants qui ont des particularités, tu sais, qui les rendent particulièrement vulnérables. Mmh. Alors, à ce moment-là, évidemment, je trouve que ça touche aussi la coalition. Mmh. Alors, on parle, tu sais, d'intersectionnalité au niveau de la race, au niveau du genre, au niveau socio-économique, au niveau de du capacitisme, des conditions. Alors, moi, c'est cet aspect-là pour lequel je milite aussi également, là, de part et d'autre, là. Alors, je suis devenue travailleuse sociale, intervenante, chercheur en autisme critique. Puis, fait que moi, c'est toutes ces questions-là. J'en entends beaucoup parler. Récemment, on faisait notre campagne de financement, puis au téléphone, il y a un parent qui m'a dit « Écoutez, moi, je suis débordée, là. Je suis père de deux jumeaux autistes qui ont des troubles de comportement graves, qui est expulsé de tous ces milieux. Honnêtement, c'est ça, en ce moment, que j'ai besoin de... » Et puis, c'est justement ce qui m'est arrivé, moi. J'ai dû m'investir, moi aussi, très activement. Justement, mais en même temps, quand on regarde, ça parle de la même chose. Ça parle de la défense de droits pour des personnes qui sont en quête d'équité.
Qu'est-ce que j'ai beaucoup entendu avec Jean-Marc-Gary Pimona, c'est un travail de reconnaissance des familles, un travail de dire qu'elles existent. Peut-être que le prochain 25 ans est plus sur justement reconnaître les spécificités de nos familles, sur reconnaître comment elles sont différentes et comment on peut les supporter là-dedans.
Exact.
Toute la question de l'intersectionnalité, la décolonisation, c'est plein de termes qui sont très polarisants, ou du moins comme le racisme systémique. C'est tout des trucs qu'on est témoin, mais qui font aussi partie des réalités des familles LGBT+. C'est ces débats-là, ou du moins ces discussions-là, s'intègrent aussi dans la coalition, s'intègrent aussi dans nos réalités. Donc, souvent, on a tendance à dire la communauté, mais dans les faits, c'est des communautés. À tout niveau, l'être, mais aussi d'un point de vue ethnique, d'un point de vue culturel, etc. Et je trouve que, justement, il faudrait voir la coalition comme un lieu de rassemblement de toutes ces lettres-là, de tous ces univers-là, toutes ces réalités-là. On commence, on dirait, à plus se parler, ou du moins à plus s'écouter, en fait.
Si je me retourne vers vous quatre, que je vous pose cette question, est-ce que vous avez de l'espoir pour les 25 prochaines années?
Évidemment, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit en termes de, on va avancer en termes de la reconnaissance de toutes ces différentes identités, intersections, ça va sans dire. En même temps, comme j'écoute, comme je vois que les choses vont, c'est comme si les choses vont en deux directions en même temps. Donc, on avance, on reconnaît de plus en plus des personnes et puis des différentes identités. Et puis, en même temps, il y a ce backlash qui se fait. Donc, il faut absolument qu'on soit vigilant. Dans ça, c'est nécessaire parce que, comme tu dis, qui aurait pensé comme qu'on va discuter de l'avortement et puis aussi aux États-Unis, les droits des personnes trans, ça recule maintenant énormément, que ça fait peur. Puis, ce qui est un peu comme l'éléphant dans la salle, c'est l'environnement.
Je pense aux discussions que j'ai avec mes ados, discussions qui portent sur l'environnement, qui portent sur la race, qui portent sur la discrimination, sur la place des personnes trans et non-binaires dans notre société. J'avais jamais des discussions comme ça avec mes parents. Ils sont tellement mieux conscientisés à l'ensemble de ces enjeux-là, à une ouverture d'esprit par rapport à l'autre qui est complètement différent et qui, moi, me donne quelque part de l'espoir pour l'avenir.
Il y a même cet aspect-là de dire, oui, c'est la coalition des familles, mais dans les familles, il n'y a pas juste des parents. Il y a les enfants, il y a la fratrie, il y a les grands-parents, il y a les proches, il y a...
Les familles choisies.
Alors, à ce moment-là, je pense qu'effectivement, qui sait, il va peut-être avoir un groupe de fratrie qui vont aider ou soutenir les plus jeunes à réfléchir sur le fait d'avoir des parents de la diversité. Puis à ce moment-là, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être faites, même au niveau de tous ces enfants-là adoptés.
Moi, je crois que les structures de différents types de familles, ça va exploser. Comme on peut même pas imaginer, mais il y aura comme tellement de différents types de familles, des formes.
Tout à fait.
Je regarde Mona, puis je me dis, il va falloir qu'on lance une coalition des grands-parents aussi. On est peut-être rendu là.
C'est ça.
Pour qu'on devienne grands-parents avant.
C'est ça.
Pas nécessairement. On a des futurs parents à la coalition, on a des futurs grands-parents à une future coalition, qui sait.
Oui. Moi, je me souviens d'un temps quand c'était très difficile pour les grands-parents de parler de nous. C'était comme un coming out qui était imposé sur eux. Puis, c'était pas très connu, les familles LGBT. Puis là, je pense que c'est plus facile pour ces grands-parents maintenant parce que comme on est plus visible. Et puis ça, je pense que c'était quelque chose d'important que la coalition a fait. On a vraiment visibilisé les familles.
Moi, c'est ma propre grand-mère qui a hâte là, que ça arrive. Puis elle dit, là, je veux être arrière-grand-mère. Puis, tu sais, là, ça va être une arrière-grand-mère de la coalition famille LGBT. Mais faut que j'explique que le processus avec la DPJ, ça prend du temps, etc. Puis, en tout cas, elle me faisait dire, peu importe comment qui est, j'ai juste hâte qu'il arrive, puis je veux le prendre dans mes bras. Fait que c'est beau aussi d'entendre ma propre grand-mère. T'sais. Fait qu'en fait, c'est une qui serait arrière-grand-mère. Fait que c'est super, en fait. Fait que je pense que tu as raison. C'est pas encore le cas pour tout le monde. Mais on progresse, puis il faut le saluer, puis il faut le célébrer.
On a beaucoup parlé de nos expériences et de notre réalité au sein de la coalition comme parents. Mais on a créé un espace pour nos enfants aussi qui est super important. Et je pense toujours au fils d'un ami qui dit il adore venir aux activités de la coalition parce que là, il n'y a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Tout le monde connaît, tout le monde comprend sans poser de questions. C'est un lieu où il peut tout simplement être lui-même et jouer comme un enfant. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'extra. Et ça, je trouve ça extraordinaire pour nos enfants de créer un endroit, un espace sécuritaire où ils peuvent échanger, où ils peuvent explorer des choses qui sont liées à leur réalité, qu'ils soient adoptés, qu'ils soient pas adoptés, qu'ils aient deux mamans, quatre pères, peu importe, là, c'est un espace pour eux. Et ça, c'est vraiment, c'est essentiel, mais c'est très, très spécial pour avoir créé ça.
Mm-hmm. Oui, vraiment, c'est... Et je me rappelle quand j'étais en Outaouais, parce que j'ai passé 23 ans en Outaouais, puis j'avais demandé à Mona la permission de créer un chapitre, justement, d'activité sociale en Outaouais pour que, justement, mes enfants sachent qu'ils ne sont pas les seuls à avoir deux mamans. Mm-hmm. Ça a fonctionné, puis même encore aujourd'hui, ça s'accroît, puis on a créé toutes sortes d'activités, tu sais, les campings, tu sais, la cueillette de citrouilles, vraiment pendant quelques années, puis je suis d'accord aussi avec Gary, là, ce que ça apporte, et même à nos parents, de se sentir qu'ils peuvent dire maintenant qu'ils sont grands-parents d'enfants adoptés par deux mamans. Ils peuvent dire... « Ah, mes belles-filles, ma belle-fille, mon beau-fils. » Ils se sentent aussi légitimés à pouvoir nommer leur rôle dans cette constellation-là familiale. Et puis ça, ça n'a pas de prix.
C'est des années de bons souvenirs, tout simplement. Hein? Tu sais, je regarde Bianca, on a fait du camping combien d'années ensemble avec nos familles. Les enfants s'en souviennent après. C'est des liens, c'est des photos, c'est des souvenirs d'enfance qui sont incroyables.
Mm-hmm. Puis on veut justement que la coalition représente plus de familles BIPOC, les familles trans non-binaires. Oui. Je pense que c'était ça le futur 25 ans, c'est qu'il y a eu tellement de travail qui a été fait pour reconnaître les familles qui existaient déjà. Ben, prochain 25 ans, dans 25 ans, il va peut-être avoir un événement justement avec 300 familles où est-ce que tout le monde va se reconnaître.
Oui, puis pour en dire plus aussi, au niveau des enfants, comme vous savez, tu sais, les enfants veulent veulent toujours protéger leurs parents, hein, comme on parle. Je pense que ça les, c'est rassurant pour eux de sentir que leurs parents, les droits de leurs parents sont protégés. Parce que nos enfants ne sont pas LGBT, c'est nous, c'est les parents. Peut-être qu'ils le sont ou qu'elles le sont, mais c'est pas nécessairement. Alors, à ce moment-là, je pense qu'il faut, il faut rappeler que c'est important de maintenir ces gains-là politiques, légales, pour toutes les personnes qui sont de près ou loin touchées par la vie et la réalité d'une personne LGBT plus ou bi-spirit ou queer.
Et merci beaucoup d'avoir été là. C'est un plaisir.
Merci.
Pour conclure ce dernier épisode, j'aimerais remercier tout le monde qui a participé à la table ronde. C'était vraiment, vraiment fun pour moi de parler avec Gary, Bianca et Philippe. June, j'aimerais te remercier aussi. C'était tellement le fun d'animer tous ces épisodes avec toi et puis de tout ce projet. C'était un plaisir.
Merci beaucoup. On a vraiment parcouru beaucoup de chemin dans les 16 derniers épisodes. Des moments drôles, touchants, éducatifs. 34 familles qui se sont ouvertes à nous pour parler de sujets tellement divers, mais qui ont toute une chose en commun, l'amour. L'amour dans la différence, dans la multiplicité de nos expériences comme famille de la diversité sexuelle et de genre.
Merci tellement à vous, les familles. Merci pour votre accueil, pour votre ouverture d'avoir comme parler de vos vies tellement ouvertement, de nous faire entrer dans votre intimité. Pour moi, toute cette expérience était vraiment une expérience full circle. J'ai fondé cet organisme avec ma conjointe il y a 25 ans. Et puis, c'est vraiment le fun après 25 ans d'avoir visité toutes ces familles et puis de voir comment comme le militantisme de la coalition puis nos actions, nos ateliers, tout ça a eu vraiment un impact sur la vie de tellement de personnes. Donc, c'était vraiment gratifiant. Mais ce que j'ai surtout remarqué, c'est comment ces gens-là, comme dans leur vie quotidienne, ont changé le monde. C'est vraiment dans, juste de vivre leur vie ouvertement, c'est ça qui a changé les attitudes.
J'aimerais ça aussi dire que la majorité des familles connaissaient Mona, mais ne me connaissaient pas moi. Donc, j'étais souvent un inconnu qui arrivait chez eux. Donc, j'aimerais ça prendre un moment pour exprimer ma profonde gratitude envers justement toutes ces familles, ces futures familles qui ont participé au balado. Vous m'avez vraiment ouvert les portes de votre quotidien. Vous m'avez partagé des moments de joie, de tristesse, de fierté. Puis vous m'avez vraiment accueilli à bras ouverts dans vos foyers. Donc, merci énormément. Puis, j'espère que vous avez aimé ce que j'ai façonné avec vos témoignages.
Et à notre chère audience, merci, merci, merci mille fois d'avoir écouté tous les épisodes de ce balado. On est vraiment reconnaissants.
Puis on a hâte de voir ce que les 25 prochaines années nous réservent. Puis en espérant vous revoir très bientôt. Ce balado est une production de la Coalition des familles LGBT+. Animation, réalisation et montage par Henry June Pilote. Co-animation par Lani Trilène et Mona Greenbaum. Musique par Nkoussi. Ce balado doit avant tout sa magie et son authenticité à l'accueil chaleureux et sincère des 34 familles et futures familles que nous avons rencontrées. Merci énormément.